Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le viseur, le troisième d'un triptyque avec le colonel David de l'armée de l'air, donc bonjour colonel.
Bonjour Alexandre.
Où on parlait des premières fois, où on parlait ce qui nous permettait aussi d'envisager tout l'éventail des missions de l'armée de l'air et notamment des avions de chasse de l'armée de l'air, on a parlé déjà d'une OPEX, d'une mission de reconnaissance. On a parlé aussi, on a détaillé un peu les missions de police du ciel de l'armée de l'air à travers une fausse alerte qui n'était pas fausse d'ailleurs, mais à travers une mission de police du ciel que vous nous avez racontée sur Rafale. Et aujourd'hui, pour le troisième volet de Striptique, on va parler de missions peut-être un peu plus directes, un peu plus... Un peu plus dans le cœur de ce qu'on imagine du métier de chasseur et d'avion de chasse, où il s'agissait encore d'une OPEX, mais cette fois d'une OPEX plus directe, plus avec engagement, qui concerne, alors vous allez nous le dire, vous allez nous le raconter, mais c'est un, évidemment, des grands épisodes de ces dernières années où les armées françaises ont été engagées, notamment l'armée de l'air, c'est la Libye en 2011, c'est bien ça ?
C'est exact. Donc, je vais vous raconter cette mission du 19 mars 2011. Il s'agissait de la première mission au-dessus de Benghazi, du ciel libyen, commandée par Nicolas Sarkozy dans le cadre de la résolution de l'ONU. Et c'était une mission de défense aérienne. La fois dernière, nous avions parlé de défense aérienne avec la police du ciel. Et bien là, on va plutôt parler d'entrée de théâtre, si vous me pardonnez l'expression, même si les défenses solaires n'étaient pas... elles existaient, mais n'étaient pas extrêmement durcies.
Mais alors, et c'est intéressant, la notion de défense aérienne, puisque si vous êtes au-dessus de la Libye, on pourrait dire comme ça que vous êtes plutôt en position d'attaque que de défense, dans une certaine mesure. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on appelle ça la défense aérienne ?
Alors effectivement, le terme correct, la défense aérienne, ou plutôt tout ce qui est mission de counter-air en anglais, vous avez un volet défensif. C'est par exemple celui qu'on a illustré à la fois passé en parlant de la PPS, mais vous avez également un volet en temps de guerre, hein, défensif. Et puis il y a un aspect offensif, ou ce qu'on appelle on balaye le ciel, je sweep, pour vérifier qu'on possède la maîtrise du ciel et empêcher à l'ennemi son utilisation à des fins militaires. Alors, dans cette mission du 19 mars, notre mission...
Rappelons. C'est compliqué de rappeler le contexte. Enfin, c'était compliqué, mais bon, rappelons que c'était dans le contexte des printemps arabes. Soulèvement notamment en Libye, et progression de l'armée libyenne qui, vous avez commencé à y faire référence, était un peu vétuste, mais qui était quand même très très significative, parce que pendant des années, le maréchal Kadhafi avait acheté beaucoup d'équipements, notamment en russe. Donc il y avait des trucs, ils n'étaient peut-être pas du dernier cri, mais il y avait des choses. Et c'était l'idée qu'ils se dirigeaient vers Benghazi pour réduire, formulons-le comme ça, les révoltes de Benghazi, et que donc, on se souvient du contexte, il fallait intervenir très rapidement pour éviter que l'armée libyenne, globalement, mette à feu et à sang la ville côtière de Benghazi.
Alors effectivement, il y avait un côté très politique également à ces événements, puisque l'armée aérienne a été utilisée... encore très rapidement, dans le prolongement de la décision politique. On se souvient du président Sarkozy qui, avec son annonce, au moment où je vous parle, des rafales sont en train de survoler Benghazi et de démontrer la volonté, de manifester la volonté et la détermination française. Eh bien, les quatre rafales, en l'occurrence, qui étaient au-dessus de Benghazi, j'en faisais partie. J'étais le numéro 3 de la patrouille. Le leader était un pilote qui est et avait grandi dans la défense aérienne. Moi, j'avais plutôt grandi dans la reconnaissance et dans l'appui-feu, donc j'étais numéro 3, donc deputy lead, on va dire ouais, deputy lead tout simplement de la patrouille avec deux équipiers qui nous assistaient. Et notre mission, c'était... Alors, tactiquement, c'est discutable, mais c'était faire en sorte de tenir une zone d'interdiction aérienne, mais qui était quasiment grande comme la France. Vous imaginez bien qu'avec 4 rafales, c'était pas forcément suffisant. Mais c'était surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir démontrer qu'on était là, scanner le ciel et vérifier que la patrouille de Mirage 2000D et de Rafale derrière allait pouvoir tirer leur armement sans opposition.
Ah d'accord, vous, il ne s'agissait pas vous directement d'intervenir, il s'agissait de s'assurer que les copains qui viendraient derrière et qui, eux, avaient une mission très précise par rapport à l'armée libyenne, pourrait le faire tranquillement.
Alors, c'était une mission très précise aussi. C'était une mission de défense aérienne. L'objectif, c'était de détecter, d'identifier et d'engager éventuellement toute menace aérienne pour ouvrir la porte, je vais parler du sweep, du balayage, à nos copains derrière qui, eux, allaient délivrer de l'armement et arrêter cette fameuse colonne de chars qui remontait vers Benghazi.
Alors, vous vous attendiez à quoi? C'est-à-dire, là, comme ça, j'ai pas en tête les dimensions de l'armée de l'air libyenne circa 2011. C'était quoi? Ils avaient des avions, ils avaient des avions qui pouvaient vous poser problème, ils n'avaient pas été neutralisés avant. Enfin, c'était quoi la situation stratégique, disons?
Alors, lors de la première émission, je vous ai parlé de mon premier engagement en Afrique dans le cadre de l'opération Épervier. Là, il s'agissait de ma première opération sur Rafale, mais entre-temps, j'avais participé à de nombreuses autres opérations, que ce soit toujours en Afrique, mais également en Afghanistan. J'avais quand même une expérience qui m'aidait à appréhender, moi et mes camarades évidemment, quels étaient les enjeux et la situation à laquelle on était confrontés. Donc comme pour toute préparation de mission, il faut revenir un petit peu en arrière, et effectivement, avant de se retrouver en l'air lors d'un show of force supersonique au-dessus de Benghazi, on va revenir un petit peu en arrière. Ça fait déjà quelques jours, voire quelques semaines, qu'on sent qu'il va se passer quelque chose. Il y a, comme vous l'avez évoqué, les printemps arabes, la situation qui se dégrade assez sensiblement en Libye, et on voit poindre une volonté politique de ne pas rester passif, française, britannique, essentiellement dans les premiers temps du conflit. Donc on se prépare à monter en puissance, c'est une ouverture de théâtre, le thème c'est les premières fois, mais là c'est une ouverture de théâtre. Alors effectivement, c'est une ouverture de théâtre, on ne s'attendait pas à avoir des défenses solaires extrêmement musclées qui allaient nous tirer des missiles partout. On savait que les défenses étaient relativement modestes, mais néanmoins il y a quand même une petite appréhension puisque on a le briefing renseignement, on a la préparation de mission, mais il y a toujours cette surprise, ce qui peut arriver, exactement. Ouais. Donc, on est lors de la préparation de cette mission, la base aérienne est en train depuis Saint-Dizier, ouais. À cette époque-là, la base aérienne est en train de monter en puissance.
Ouais, mais quand même, ça fait, c'est intéressant, ça fait une trotte, quoi.
C'est une mission qui a duré environ 8h30. On aura peut-être l'occasion d'y revenir lorsqu'on sera dans le déroulé, mais non, restons sur la préparation quelques temps.
Et est-ce que vous savez pourquoi déjà c'est vous? Enfin, je sais pas, par exemple, c'est bête, mais non, mais il y a vous, et puis il y a vous, armée de l'air, par exemple. Mmh. C'est bête, mais la France a un porte-avions qui est de temps en temps en Méditerranée, qui pourrait par exemple rapprocher des rafales. Un peu plus proche de la Libye que vous qui partez de Saint-Dizier, alors même s'il y a d'autres bases, mais il y aurait pu y avoir des gens qui partent de Mont-de-Marsan ou d'ailleurs, ça aurait déjà été plus proche. Mais pourquoi vous, pourquoi Saint-Dizier, pourquoi l'armée de l'air?
Alors, à l'époque, de mémoire, le porte-avions n'était pas disponible, ou n'était pas en position pour créer des effets dans le temps suffisamment réactif pour répondre aux objectifs politiques. Donc c'était forcément une mission qui allait être confiée à l'armée de l'air. Et toujours à l'époque, il n'y avait qu'un seul escadron de rafales, un ennemi on va dire, puisque l'escadron de dissuasion nucléaire était en train de monter en puissance. Et donc forcément, l'armée de l'air allait engager son fleuron, allait engager le rafale, ses rafales, puisque ce même jour, il y a eu cette mission de défense aérienne que je viens de mentionner, mais il y a eu également une mission d'assaut et une mission de reconnaissance. Le long des côtes du golfe de Sirte en Libye.
Donc, à la fois défense aérienne, on s'assure la supériorité de la troisième dimension, à la fois assaut, parce qu'il y a dans la vague suivante, il va y avoir des rafales, et en même temps reconnaissance de, il y a des rafales qui vont passer pour voir ce que les Libyens, pas cache, mais en tout cas, c'est ce qui est en place le long des côtes libyennes.
Effectivement, il y avait déjà eu des missions de renseignement avant le 19 mars, mais jamais à l'intérieur de la zone de responsabilité de vol libyenne, et jamais aussi près des côtes, en restant à distance. D'ailleurs, ces premières missions avaient été effectuées par les Mirage F1 CR, etc., etc.
Donc vous saviez à peu près à quoi vous attendre.
Alors effectivement, la base aérienne dans son intégralité monte en puissance. Alors, entre parenthèses, moi c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, puisqu'on partait depuis notre base mère, Saint-Dizier, et ça m'a fait toucher du doigt à quel point nos bases aériennes sont de véritables outils de combat, puisque j'ai vu toute la base aérienne se mobiliser. C'était quelque chose de nouveau, c'est le thème, la nouveauté, la première fois. Et tous les services administratifs, de soutien, mécaniciens se sont mobilisés pour nous aider parce que pendant plusieurs jours, c'était l'effervescence sur la base aérienne. Les mécaniciens changeaient plusieurs fois la configuration des avions puisque les ordres pouvaient changer au fil du temps. Quelle allait être la première mission ? Est-ce que ça allait vraiment être une mission de défense aérienne, une mission d'appui-feu ? On ne savait pas trop, donc il y a eu beaucoup de changements de configuration. On restait sur des horaires extrêmement étendus sur la base, et on a vu toute la base aérienne nous apporter un soutien visible et efficace. Et j'en veux pour preuve, lorsque, après le briefing, les quatre avions ont mis en route, ont roulé pour aller s'aligner et décoller en vue d'effectuer la mission, j'ai ce souvenir du personnel de la base aérienne qui n'avait pas forcément à voir avec les escadrons, le long du taxiway, qui nous saluait, qui disait « Allez-y », une forme d'encouragement en disant « On compte sur vous, ce n'est pas les quatre rafales qui vont être déployées là-bas, mais c'est bien la base aérienne de Saint-Dizier qui est déployée, et on en est fiers ». Donc il y avait une sorte de fierté collective, finalement, et on l'a ressenti, nous, à l'intérieur de notre cockpit, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans cette aventure que je suis en train de vous relater. Donc on décolle, alors on sait effectivement que partiellement à quoi s'attendre, on a été préparé, j'insiste, mais on a toujours cette part de contingent, cette part d'aléatoire, et on est prêt à y faire face. Donc c'est une mission relativement longue, puisqu'avant qu'on soit dans la zone d'intérêt, il se passe de mémoire quelque chose comme environ 3h30, 4h, plusieurs ravitaillements qui nous amènent sur la zone, et enfin on arrive dans le golfe de Sirte, puis dans la région de Benghazi, pour effectuer la mission. Donc là, on est un élément à quatre avions, et puis on va se séparer en 2+2 pour assurer une détection permanente, identifier et éventuellement engager. Alors, il s'avère que...
Mais identifier et engager quoi ? Des avions ennemis ?
Des avions ennemis
ou des défenses
qui n'étaient pas censés décoller. On devait également effectivement ramener...
Attendez, c'est intéressant ça. C'est-à-dire, il y a des avions ennemis ?
On sait qu'il y a des avions.
Mais comment est-ce que vous savez qu'ils ne vont pas décoller ?
Alors... Justement, c'est tout. La France a décrété cette zone d'interdiction aérienne. Bon, c'est une volonté française de concert avec les Britanniques.
Dans le cadre de la résolution,
l'ennemi n'est pas obligé de la respecter. Donc, on s'attend...
Il a quoi comme avion, l'ennemi ?
Alors, il a plusieurs types d'avions. Il a d'ailleurs des Mirage F1 qui lui avaient été vendus à Kadhafi à l'époque. Mais l'essentiel de son parc est constitué d'avions russes, des Sukhoi, mais dont... l'état de marche est tout sauf garanti. Il souffre d'un manque de pièces de rechange, d'un défaut de soutien. Donc, on sait que la disponibilité est très mauvaise de ces appareils. Donc, on ne s'attend pas à avoir...
Même pour les Mirage, vous ne leur vendiez pas forcément des pièces de rechange tous les jours, du coup.
C'est possible. Donc, on ne s'attendait pas à avoir une opposition farouche, loin s'en faut, mais éventuellement une interception sur une bravade des forces du régime pro-Kadhafi. Donc on effectue cette mission de mémoire entre 2 et 3 heures sur zone, un peu moins, 2h30 sur zone, entrecoupées de ravitaillement. On assure une permanence sur zone, c'est-à-dire pendant que deux avions vont ravitailler, il y en a deux qui restent sur la zone, pour avoir une permanence de la détection. Et également une permanence donc, d'un engagement éventuel. Alors lors de cette mission, pour nous, il ne s'est pas passé grand-chose. Je retiens quand même deux points.
Mais vous avez dit c'est long.
C'est long. Mais alors là, pour le coup, on sent pas le temps passer, puisque comme c'est la nouveauté, c'est une entrée de théâtre avec toutes les guillemets que je mets autour de cette expression, on est quand même extrêmement concentré, pris dans...
Et ça vous était déjà arrivé de faire des émissions de 8 heures, 7, 8 heures ?
Alors non, puisque sur Mirage F1, il tenait pas si longtemps en vol. Et c'était ma première opération sur Rafale. Alors j'en ferai par la suite des plus grandes, que ce soit lors de l'opération Serval, Barkhane ou Chamal, l'émission pouvant aller jusqu'à 8h30, 9h. Voilà.
Pardonnez la trivialité du truc, mais c'est une curiosité peut-être bizarre, mais juste, vous faites. Enfin, je veux dire, c'est pas un missaire qui n'a pas exactement de toilette, par exemple, sur un Rafale. C'est tout bête, hein, mais enfin, comment vous faites pour manger, boire ? Alors ça, on imagine, mais par exemple ça, vous faites quoi ?
Alors, il y a plusieurs techniques sur lesquelles je vais jeter un voile pudique, mais bon, la plus communément utilisée, c'est tout simplement une poche urinaire qu'on emmène. Alors, c'est assez technique, entre guillemets, puisque il faut se débrêler à l'intérieur de l'avion, qui est, une fois encore, même dans un Rafale, relativement exigu. Moi, je suis un format pilote de chasse français, donc plutôt petit, donc j'y arrive encore, mais certains plus grands, c'est relativement difficile. Donc il faut se contorsionner dans l'avion pour faire ce qu'on a à faire le plus proprement possible, et puis la mettre de côté pour la jeter une fois posée, voilà, pour répondre à vos questions.
Ouais, ça a l'air complètement trivial, mais en même temps, ça n'est pas forcément tant que ça, parce que... C'est tout bête, mais quand on a une mission à faire et qu'on a vraiment très envie d'aller aux toilettes, j'imagine que ça peut gêner la concentration. Enfin, je veux dire, les choses du corps sont pas
on peut pas les oublier. On peut pas les oublier, effectivement.
Et quand on a faim ou quand on a soif, on réfléchit pas pareil que quand on est. Ça fait partie du truc, quoi.
On part pas en mission de guerre, jamais, sans un moyen. Sans poche urinaire, sans bouteille d'eau et sans casse-croûte, pour parler trivialement, surtout lorsque les missions durent plus de 7 heures, comme c'est le cas la plupart du temps depuis 2011, hein, sur Rafale et sur tous les théâtres, en particulier sur... Enfin, ce qui est intéressant, alors j'ai eu l'occasion d'en parler récemment lors d'un colloque de l'armée de l'air, mais ce qui est intéressant, c'est ce que j'appelle la valse du temps dans ces missions. On a des moments... où il se passe rien, notamment ces longs transits, et puis des moments où tout d'un coup ça s'accélère, il faut absolument éviter l'hypovigilance, se remobiliser et conduire l'action le plus efficacement possible. Alors je sais que je vais radoter un peu, mais j'aime beaucoup cette phrase de Papy Boeington qui disait que l'aviation, Papy Boeington, un aviateur, alors il disait d'abord, l'aviation c'est des longues heures d'ennui épicé de quelques secondes de terreur absolue. Alors c'est vrai qu'à l'époque de Papy Boeington, qui était pilote dans l'aéronavale pendant la Seconde Guerre mondiale, les quelques secondes de terreur absolue, c'était un engagement à vue entre un Corsair, l'avion américain de l'époque, et puis un Zéro japonais, où l'un et l'autre risquaient leur vie. Là, les quelques secondes de terreur absolue pour entrecouper ces longues phases où, entre guillemets, il ne se passe rien, ça souffre de moins de conséquences potentielles. Ça peut être un ravitaillement en vol, parfois dans des conditions extrêmement difficiles, dans les turbulences, dans la mauvaise météo ou de nuit. Ça peut être quelqu'un au sol qui nous demande d'engager le feu alors qu'il ne nous reste pas beaucoup de pétrole et puis nous, on doit le faire le plus proprement possible. Encadrer son action par une vraie éthique de responsabilité tout en produisant les effets, voilà, ça peut être ce genre de choses. Alors c'est moins poétique qu'un engagement à vue entre un 0G et un Corsair, mais je trouve que cette phrase, elle capte bien la maîtrise du tempo, la valse du temps inhérente à n'importe quelle mission, une n'importe quelle mission aérienne en particulier. Donc là, la mission
en l'occurrence, donc mission au-dessus de la Libye, où vous n'aviez pas eu tellement le temps de vous ennuyer, puisque vous sentiez d'ailleurs qu'il se passait... que c'était un truc, quoi.
Là, il se passait... Alors oui, on le sent. Alors une fois encore, comme je l'ai relaté lors des deux premiers épisodes, lorsqu'on ferme la verrière, on est vraiment dans sa mission. On le sent surtout après. J'aurai l'occasion peut-être d'en parler. Quand on est dans le cockpit, voilà, on est préparé. On est formé, donc on déroule sa checklist, entre guillemets, on s'adapte aux circonstances nouvellement créées, et c'est parti.
Et donc là, vous êtes resté 2 heures, 2 heures et demie, vous nous avez dit, sur zone.
Voilà. Pas passé grand-chose. En gros, on a
déroulé
nos
gammes.
On n'a pas vu de Mirage F1.
Autre que les vôtres.
Ce qui aurait eu une saveur particulière pour moi en tant qu'ancien pilote. Mais non, évidemment, on ne les a pas vus. En revanche, voilà, on a eu une fausse alerte avec un plot détecté sur lequel on nous a demandé, donc pour utiliser le langage d'aviateur, de comité, c'est-à-dire de partir en interception. Donc là, il s'avère que le leader est le 2.
Ça veut dire qu'un plot détecté, ça veut dire qu'il y avait une base aérienne sur laquelle ça bougeait.
Ça veut dire que l'AWACS qui était avec nous nous dit « on a un contact radar ».
Alors l'AWACS, rappelons simplement, c'est ces avions radar, c'est les avions qui ont le plateau au-dessus, qui ont des grosses capacités radar. Ouais.
Donc c'est un avion de guet aérien donc, qui était avec nous, faut pas l'oublier évidemment. On avait des ravitailleurs, il n'y avait pas que 4 Rafales, il y avait un ravitailleur et puis cet avion de guet aérien. Et cet avion de guet aérien qui assurait notre contrôle, et j'ai une détection à tel endroit. Eh bien, c'est parti comité, donc conduisez votre interception. Alors là, c'est pareil, je me dis décidément, entre guillemets, et sans que ça soit malsain, j'ai de la chance, puisque c'est le leader et deux, il était en train de ravitailler, donc il y avait le 3 et 4 de la patrouille qui étaient disponibles pour effectuer cette interception. Il s'est avéré que très rapidement, c'est-à-dire en moins d'une minute, on nous a dit que c'était une fausse détection, et en fait, il ne s'était rien passé. Donc c'était le petit piment au milieu de ces phases d'attente, ingrate, mais néanmoins nécessaire.
Mais alors, vous nous avez dit, donc, vous faisiez la défense aérienne, l'ouverture de théâtre, pour que les copains derrière puissent faire ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire à savoir attaquer la colonne de blindés kadhafistes qui allait vers Benghazi. Donc ça, ils l'ont fait pendant vos 2h30 sur place ?
Alors, pas tout à fait, ils l'ont fait juste après. En compagnie d'autres avions de défense aérienne. C'est-à-dire que nous, il y avait deux aspects. Il y avait l'aspect tactique discutable, à savoir donc, tenir cette zone d'interdiction aérienne. Je dis discutable parce qu'à 4, c'est relativement illusoire. Mais il y avait surtout l'aspect politique. C'était montrer qu'on était là. Et cette manifestation politique, cette volonté politique, elle s'est démontrée par, à la fin de notre créneau, un passage au-dessus de Benghazi en supersonique pour dire à tout le monde, oui, la France est là et la suite arrive. Et la suite est arrivée avec d'autres avions de défense aérienne qui étaient des Mirage 2000-5 qui ont offert l'escorte ou la protection aux avions d'assaut qui suivaient.
Donc du coup, vous ne l'avez pas vu ?
Ah non, je ne l'ai pas vu, mais lorsque la mission s'est terminée, nous nous sommes posés non pas à Saint-Dizier, puisqu'on nous a demandé d'étendre notre créneau d'effort sur zone, donc on n'avait plus suffisamment de pétrole, nonobstant la présence du ravitailleur, et donc il a fallu se poser plus près sur notre porte-avions naturel, qui est la Corse, et duquel ensuite ont été conduites les opérations avant qu'elle ne migre à Sigonella, en Sicile. Donc on s'est posé en Corse, et là... C'est là où, une fois qu'on ouvre la verrière, on a d'abord le sentiment d'avoir fait correctement son travail. Et une fois encore, sans que ça soit malsain, et tout en mettant en exergue cette ambiguïté du métier de soldat, c'est-à-dire faire la guerre sans l'aimer, on a quand même ce sentiment de fierté, de dire « Waouh, j'ai participé à une mission, entre guillemets, historique, la première, le 19 mars 2011, la première avec des gens que j'apprécie, que j'aime même, pour ouvrir un théâtre. » Et c'est quelque chose qui a une saveur particulière et qu'on garde effectivement dans un coin de sa tête lorsqu'on quitte le milieu opérationnel. Alors,
Ceux qui ont fait l'assaut après, ils sont venus en Corse aussi avec vous ?
Alors de mémoire, il me semble que oui, ils sont revenus en Corse, mais j'ai un petit doute. Je crois qu'ils sont rentrés à Saint-Dizier aussi, quand même, de leur côté.
Ouais, mais donc la question, c'est est-ce que vous vous réunissez à tous ceux qui étaient dans le ciel ce jour-là ? Vous voyez, à un moment, pas pour débriefer ou même pas que pour débriefer, pour un truc. Éventuellement de convivialité, de genre ce moment qu'on a partagé ensemble,
bien
ce
sûr.
Truc qui est en plus relativement...
Bien sûr, lorsque la mission est terminée, qu'on est en transit-retour, qu'on a effectué son dernier ravitaillement en transit-retour vers la base aérienne de Solenzara, où on se rassemble à 4 avions, on s'échange quelques mots de complicité, et puis c'est là où effectivement la verrière n'est pas encore ouverte puisqu'on est en vol, mais on commence déjà à être un petit peu fiers de ce qu'on a fait, tout en mesurant les limites, mais on est quand même fiers de ce que l'armée de l'air était capable de mettre en place, et on en parle au sol aussi.
Oui, c'est ça, j'allais dire après, pas vous faites un pot, mais enfin, pourquoi pas d'ailleurs, ou un repas ou un truc de... voilà, on était tous dans le ciel à ce moment-là en même temps. C'est bien de se voir et d'en parler ensemble, quoi.
Oui, alors déjà, on est accueillis par tout un détachement qui nous regarde un petit peu les yeux écarquillés parce que du fait de la spécificité, de la singularité de cette mission. Donc on échange beaucoup avec eux, on se retrouve entre membres de la patrouille, avec nos mécaniciens également et qui nous avaient fait partir, enfin surtout du moins ceux qui nous font revenir puisque ceux qui nous avaient fait partir sont restés à Saint-Dizier et puis on s'échange quelques mots. Alors on n'a pas le temps tant que ça de célébrer ça autour d'un pot puisque les opérations continuent et chacun d'entre nous est engagé assez rapidement pour la suite des opérations. S'ensuit toute une phase où de nombreuses munitions sont tirées pour dégrader le potentiel militaire de Kadhafi. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que, pour moi, je fais face à une nouvelle première. C'est la première fois que j'ouvre le feu dans le cockpit de mon Rafale, quelques jours après, pour une mission de frappe dans la profondeur sur un dépôt des munitions aux mains des forces de Kadhafi.
Première fois que vous tiriez ?
Eh oui. Ça fait déjà 4 ans que je suis dans un escadron, dans l'armée de l'air et de l'espace. J'ai participé à de nombreuses opérations, que ce soit en Afrique, en Afghanistan. Et c'était la première fois que je tirais de l'armement.
Et alors ?
Alors, je pense, du fait que j'étais déjà fort d'une expérience, ce n'était pas quelque chose qui me manquait. J'ai toujours considéré que c'était très malsain d'aller absolument chercher l'action de feu pour accrocher une médaille supplémentaire à sa veste.
De toute façon, c'est pas vous qui décidez d'une manière générale, mais
effectivement, alors déjà, on n'a pas la main dessus. Et puis, c'est pas quelque chose qui me manquait. Je vous ai parlé lors du premier épisode de la tangibilité qu'il y avait derrière le fait de ramener du renseignement, par exemple. Alors, c'était du film à l'époque. Ensuite, sur Rafale, ça a été du numérique qu'on débriefait systématiquement, mais c'était quelque chose de tangible. Donc je me levais pas le matin en disant « Zut, ça fait 4 ans ou 5 ans, 6 ans que je suis dans l'armée de l'air et j'ai toujours pas tiré. » Loin s'en faut. En revanche, lorsqu'on m'a demandé de le faire, je l'ai fait de manière assez mécanique, justement, et encadré par une forte éthique de responsabilité, puisque tirer de l'armement, c'est jamais appuyer simplement sur la gâchette de tir et voir ses munitions partir, comme on le ferait dans un jeu vidéo. On a souvent ce mythe-là de l'opérateur de drone ou du pilote de combat qui est très détaché de son action du fait de la distance physique entre lui et son objectif. C'est vraiment un mythe que j'essaie de casser au quotidien, puisqu'au contraire, chaque fois qu'on mène une action de feu, et ça a été le cas pour moi, comme pour la suite, lors de ce premier engagement. Eh bien, on déroule ce qu'on appelle les piliers du ciblage, toute une litanie de questions qui vont encadrer notre action. L'objectif que j'ai est-il de nature militaire ? Est-ce que j'ai le droit de le traiter ? Qui m'a donné l'autorisation de traiter cet objectif ? Comment je vais faire pour éviter les mots superflus et pour mesurer les dommages collatéraux ? Et à chaque fois, on a ce type de questions-là. Et la dernière, quel est l'armement le plus adapté pour atteindre l'effet militaire en évitant justement ces mots superflus ? Donc c'est tout un processus que chaque pilote de combat, auquel chaque pilote de combat répond avant d'engager le feu. Et pourquoi ? Puisqu'à chaque fois, la puissance aérienne a matérialisé finalement l'avantage asymétrique sur l'adversaire. C'était le cas en Libye, là. Et donc j'aime bien également citer ce vers d'Horace, même si là encore je radote un petit peu. La force sans intelligence s'effondre sous sa propre masse. Donc, vu la force que nous avons sous les ailes, on doit absolument encadrer cette action par une éthique de responsabilité, par une intelligence dans la manière dont on déploie la force. Et c'est vraiment ce schéma-là qui m'a animé ce jour-là, lors du traitement de cet objectif, mais également derrière, lorsque j'ai été amené à ouvrir le feu sur d'autres théâtres.
Ouais. Et du coup... Mais là, du coup, vous l'avez très intellectualisé, quoi, ce truc-là, mais...
Mais je peux vous garantir qu'en vol, c'est exactement ce qui se passe. En vol, c'est... OK, j'ai un dossier d'objectif, j'ai des règles d'engagement qui ont été définies, avant d'appuyer sur la gâchette, je me déroule chacune de ces questions. Et vous me dites que je l'ai intellectualisé, parce qu'on l'intellectualise dès la préparation opérationnelle, c'est-à-dire en temps de paix, en dehors de temps de crise, mais également lors du briefing, on réactive ce type de connaissances. On le fait systématiquement. Ce n'est pas quelque chose qui est intellectualisé pour le plaisir de...
Mais est-ce que du coup, il y a un truc viscéral quand même qui se passe quand la première fois on tire quelque chose qui peut blesser quelqu'un. Enfin, évidemment que ça fait pour, mais parce que vous nous avez dit que c'était un dépôt de munitions, donc ça peut y avoir des victimes ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un truc viscéral qui se passe quand même, ou est-ce que justement l'objectif c'est qu'il n'y ait pas ce truc viscéral ?
Alors, je pense que chaque expérience est personnelle. Tout dépend du moment où elle arrive. Je pense qu'on ne vit pas la même situation selon qu'on soit un jeune pilote opérationnel et qu'on effectue son premier détam ou qu'on a déjà baroudé sur d'autres théâtres. C'est difficile de mettre des mots sur ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Néanmoins, dans ma mémoire, une fois encore, le cockpit fermé, je ne me suis pas posé plus de questions que ça, que celles qui sont nécessaires au pilier du ciblage. En revanche, derrière, oui, on se pose des questions. C'est d'ailleurs, à mon avis, bénéfique et salvateur en tant que militaire, en tant qu'homme ou femme, en tant qu'officier. Mais dans le moment de l'action, non. Il y a un temps pour l'action, un temps pour la réflexion, et on doit pouvoir être en mesure de conjuguer les deux au gré des circonstances.
Très bien, bah merci beaucoup donc pour ce triptyque consacré aux premières fois, mais bon, à travers les premières fois. C'est aussi tout un panel d'émissions et des expériences qui peuvent être vécues dans l'armée de l'air, et particulièrement dans cette composante si particulière de l'armée de l'air qu'est la chasse. Merci beaucoup, colonel David.
Merci, Alexandre.